Bonsoir, bonsoir à tout le monde, enfin peut-être pas à tout le monde quand même, au moins à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de l'UCL, de l'Union Communiste Libertaire. À tout de suite. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez entendu clairement notre générique. Sûr, parce que moi, c'était un peu difficile avec un casque sur les oreilles. J'avais un mal de chien à entendre ce qui se passait. Donc, vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire, sur le 102.2, bien sûr, de Radio Canu, comme tous les mercredis de 20h à 21h. Sauf que ces deux mercredis précédents, on était.
C'est possible,
absents.
Oui, voilà.
Étions absents.
Ça arrive.
Donc, ça arrive. On s'en excuse pour nos aficionados, nos habituels. Voilà. Et on vous remercie d'être toujours à l'écoute pour entendre ce qu'on a à dire.
Cette nouvelle émission, ouais.
Puis bonnement, restons tranquilles.
Puis comme d'habitude, on va commencer par quelques annonces pour vous dire que demain soir, au Casse-Dalle, c'est au 221 rue de Créqui, dans le 3e, de 18h30 à 21h, c'est Lyon Info Migration qui propose de venir échanger, de vous renseigner sur la thématique ce coup-ci de l'hébergement citoyen pour et avec les migrants et les migrantes. Je vous lis le petit pitch. Système des hébergements d'urgence sous-dimensionnés, refus d'hébergement pour les demandeurs demandeuses d'asile en toute violation de la Convention de Genève, carence de logements sociaux, expulsion locative, expulsion des squats et des campements, expulsion des bidonvilles de Mayotte. Il paraît qu'en France, il y a le droit au logement opposable. Pourtant, des dizaines de milliers de personnes exilées sont abandonnées à la rue. Mais la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut nous empêcher de les rencontrer et les soutenir. Refuser l'indifférence, c'est à la portée de chacun, chacune, de même que soutenir leur premier besoin, l'hébergement. Et donc l'hébergement citoyen et tous les hébergements alternatifs pour et avec les migrants et migrantes regroupent un grand nombre de formules selon les possibilités des personnes et des associations qui toutes contribuent à refuser que les personnes exilées soient laissées pour compte à la rue. Colocation solidaire, accueil chez l'habitante et l'habitant, cagnotte pour payer les loyers. Pour les personnes exilées, c'est une aide. Mais cela implique aussi des contraintes et des difficultés. Pour les personnes accueillantes, c'est aussi toute une aventure. Donc, qui peut proposer un accueil citoyen? Qui peut en bénéficier? Est-ce que l'hébergement citoyen ne risque pas d'invisibiliser les personnes sans logement? Accueillir les gens chez soi n'est-ce pas faire le jeu des pouvoirs publics qui peuvent, à peu de frais, se défausser de leurs responsabilités? Rencontres, témoignages et interrogations à partager avec des personnes accueillies et accueillantes, des bénévoles, des associations... JRS Welcome, accueil migrant Croix-Rousse, terre d'ancrage et du squat Le Casse-Dalle. C'est demain, 27 avril, de 18h30 à 21h au Casse-Dalle, 221 rue de Créqui. Ensuite, vendredi 28 avril, journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Depuis près de 3 mois, les salariés se mobilisent partout en France contre la retraite à 64 ans. À l'occasion de cette journée internationale du 28 avril, la CGT appelle à la mobilisation partout en France. Arriver jusqu'à la retraite est une chose, y parvenir en bonne santé en est une autre. En augmentant le temps de travail, c'est à notre santé que l'on s'attaque, alors que l'espérance de vie en bonne santé est en diminution en France, avec 64 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes. Pire encore, certains perdent leur vie à la gagner. Augmentation des cadences, exposition des travailleurs et travailleuses au risque, sous-traitance en cascade, pénibilité. La dégradation des conditions de travail accroît le nombre d'accidents mortels pour les seuls profits du patronat. Les travailleuses et travailleurs doivent conquérir de nouveaux droits pour intervenir sur leur travail et son organisation, à l'opposé des réformes délétères du gouvernement depuis 2017 et les ordonnances Macron, c'est plus de 30% d'augmentation des accidents mortels. Donc il y a une manifestation au départ de l'ARS, Agence Régionale de la Santé, au 54 rue du Pensionnat Lyon 3e, demain à 12h30. Et juste avant, à partir de 10h30, de 10h30 au même endroit, une action de la santé et de l'action sociale. Vous pouvez même vous y rendre avant, il n'y aura pas de souci. Bien évidemment, il y aura le rendez-vous du 1er mai, ce lundi, avec au départ de la manif intersyndicale, départ place Jean Jaurès, pour se rendre sur Bellecour. Donc rendez-vous à partir de 10h lundi 1er mai. Sachant que ça partira souvent qu'à 10h30, mais bon, du coup, voilà, rendez-vous est fixé à 10h pour s'installer tranquillement. Il y aura donc un cortège rouge et noir à la fin du cortège syndical, intersyndical, donc juste derrière la CNT, avec la CNT, CNTSO, le STJV et donc l'UCL, et aussi quelques camarades de la FA. Donc voilà, on va se retrouver par là-bas, si vous n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce cortège rouge et noir. Et ensuite, à l'arrivée de Bellecour, il y aura donc une deuxième manifestation, comme on le fait un peu traditionnellement, pour se rendre au repas de quartier de Radio Canut, qui aura lieu place Satonnet, donc au départ de la place Bellecour, à la fin de la manif, et en direction de la place Sato, voilà, si c'est possible, bien évidemment. Donc voilà pour ce rendez-vous du 1er mai.
Et juste un petit détail,
je vous en prie.
Le STJV,
c'est syndicat de jeux vidéo, du coup, voilà.
D'accord.
Qui se rapproche un petit peu de nos idées libertaires. Voilà, même ça reste un syndicat corpo pour l'instant. En tout cas, les personnes qui le composent sont plutôt proches.
Voilà.
C'est pour ça que ce coup-ci, il y avait la proposition de le faire avec nous. Il est toujours bon de rappeler un petit peu les origines de ce 1er mai. On va le faire maintenant, comme ça ce sera fait. Donc, fondé en 1881, l'ancêtre direct de l'AFL et la Fauteluy ne regroupe que les ouvriers qualifiés, des hommes blancs, américains de souche, et ne compte que 50 000 adhérents. Mais lors d'un congrès, elle décide de mettre en premier plan de ses revendications la journée de 8 heures et de retenir la date du 1er mai 1886, ça remonte, hein, pour une manifestation de masse. Commence alors une immense campagne de propagande qui renforce l'organisation. Dès avril 1886, quelques entreprises accordent même à leurs salariés la journée de 8 heures sans diminution de salaire. 200 000 travailleurs environ bénéficièrent d'une réduction de travail. Cette même année, les Chevaliers du Travail, fondés en 1868 avec de fortes références maçonniques, rassemblent tous les travailleurs au niveau d'une localité, blancs et noirs, femmes et hommes, américains et immigrants, ouvriers, qualifiés et non. Ils représentent plus de 700 000 adhérents et adhérentes. Ces adhérents de l'ordre jouèrent le rôle principal dans la grève du 1er mai 1886, bien que la direction les condamnait. Les responsables et les militants des Chevaliers du Travail furent des principales victimes de la répression après le massacre de Haymarket, bien que la direction de l'ordre ait refusé d'intervenir en faveur des condamnés de Chicago. Les Chevaliers du Travail allaient par la suite rapidement péricliter. L'initiative des ouvriers américains n'aurait eu qu'un faible retentissement dans le pays et à l'étranger sans les événements tragiques de Chicago qui émurent le monde entier. Sûrs de l'impunité, les milices patronales provoquaient des incidents sanglants et le 3 mai, des ouvriers qui manifestent devant l'usine de machines agricoles McCormick à Chicago sont tirés à bout portant par des détectives privés. La bataille qui s'engage fait de nombreuses victimes. Les grévistes sont principalement d'origine allemande et dans leur journal Arbeiter Zeitung, journal des travailleurs, paraît l'appel suivant. Esclaves debout. La guerre de classe est commencée. Des ouvriers ont été fusillés hier devant l'établissement McCormick. Leur sang crie vengeance. Le doute n'est plus possible. Les bêtes fauves qui nous gouvernent sont avides du sang des travailleurs, mais les travailleurs ne sont pas du bétail d'abattoir. À la terreur blanche, ils répondront par la terreur rouge. Mieux vaut mourir que de vivre dans la misère. Puisqu'on nous mitraille, répondons de manière que nos maîtres en gardent longtemps le souvenir. La situation nous fait un devoir de prendre les armes. Et dans la soirée du 4 mai, plus de 15 000 ouvriers se rendent sur la place au Foin, à Haymarket, pour y manifester pacifiquement. Il leur avait été commandé de s'y rendre sans armes. Des discours sont prononcés, notamment par Spice, Parsons et Fieldon. La foule se retire quand une centaine de gardes nationaux chargent avec violence. Une bombe lancée on ne sait d'où tombe au milieu des forces de l'ordre, en tuant 7 et en blessant grièvement une soixantaine. Les autorités procèdent alors à des arrestations parmi les meneurs de grévistes et les rédacteurs de l'Arbeiter Zeitung. August Spice, né à Hesse en Allemagne en 1855, Samuel Fieldon, sujet anglais, Oscar Nebe, né à Philadelphie, Michel Schwab, né à Mannheim en Allemagne, Louis Ling, né en Allemagne, Adolf Fischer, George Engel, Albert Parsons. Le verdict est rendu le 17 mai. Les 8 accusés sont condamnés à être pendus. Une mesure de grâce intervient pour Schwab et Fieldon, dont la peine est commuée en prison à perpétuité, et de Nibi, dont la peine est réduite à 15 ans de prison. Le 11 novembre 1887, les autres sont exécutés, mis à part Ling qui s'est suicidé. 6 ans plus tard, un nouveau gouverneur de l'Illinois, John Altgeld, conclut à l'entière innocence des condamnés. Et on cite, une telle férocité n'a pas de précédent dans l'histoire. Je considère comme un devoir dans ces circonstances et pour les raisons ci-dessus exposées d'agir conformément à ces conclusions. Et j'ordonne aujourd'hui, 26 juin 1893, qu'on mette en liberté sans condition Samuel Fielden, Oscar Nibb et Michel Schwab. Spies, Ling, Engel, Fischer et Persson sont réhabilités. L'idée américaine est reprise par les travailleurs des autres pays et en 1889 à Paris, lors d'un congrès international, une proposition demandant l'organisation d'une grande manifestation internationale en faveur de la réduction des heures de travail qui serait faite à une date fixe, la même pour tous, est adoptée et la date en est celle choisie par les travailleurs américains. Le 1er mai prend alors dans le monde entier la signification d'une journée de revendication des travailleurs face à la société capitaliste. Voilà pour ces, un peu cette histoire du 1er mai. Il faut savoir qu'en France, c'est à partir de 1947 qu'il est chômé, payé ce 1er mai. Je voulais juste vous lire un dernier truc voilà, par rapport au 1er mai, parce que du coup, il y aura cette manifestation à Lyon et dans de nombreuses villes. Je pense que ça va être assez immense ce 1er mai. Mais il y a aussi un appel à converger au Havre pour un 1er mai antifasciste. Alors pourquoi le Havre? Parce que le 1er mai prochain, le Rassemblement National a décidé de s'inviter au Carré des Docks au Havre pour leur célébration annuelle de la contre-révolution. En pleine lutte contre la réforme des retraites, après des mois de grève et de mobilisation, il est de notre devoir de leur faire barrage et de leur démontrer que notre rage n'a rien à voir avec leur haine et que leur présence ne sera jamais tolérée ici comme ailleurs. D'habitude, le 1er mai, ça se tient sur Paris, pour, en tout cas pour, les, pour le Front National, Rassemblement National. Et donc là, hop, il décentralise sur le Havre. Donc la célébration nationaliste instituée en 1920 en opposition à la célébration de la Révolution française le 14 juillet et soi-disant en l'honneur de Jeanne d'Arc, qui n'aurait certainement pas apprécié, avait lieu initialement le 8 mai. Elle fut déplacée par le FN au 1er mai dans le but explicite de briser le monopole syndicalo-gauchiste, tout ça entre guillemets, déclaration du FN en 88. Le RN concentre ainsi en ce jour sa haine de la Révolution, sa haine du mouvement ouvrier, sa haine de la lutte contre l'exploitation et pour l'égalité. Le choix du Havre en pleine mobilisation contre les retraites par le RN ne relève pas du hasard. En choisissant pour son banquet, entre guillemets, une ville portuaire et industrielle, au lieu de la grève, une ville dont le maire est un ancien Premier ministre mouillé jusqu'au cou dans la macronerie, Bardella entend souffler sur les braises du ressentiment dans l'espoir d'emporter, dans un premier temps, la mairie, puis Matignon. Non, le RN n'est pas un parti comme un autre. Ses sbires ont laissé de sanglants souvenirs au Havre, notamment les assassinats de Mohamed Larechède en 88, de James Dindoyal en 90 et d'Imad Bouhoud en 95, et il continue d'y œuvrer. Ainsi, en 2021, un attentat prévu à la date anniversaire de la naissance d'Hitler, qui visait une mosquée et un lycée, a été déjoué. En août, ces dernières années, les morts de Mathis Le Pillet, d'Abdoulaye Camara, de Karim Tagbalout et de Mohamed Raji, décédés en cours d'intervention policière, ont endeuillé la ville et notamment la cité Chauvin et le quartier de la Mare Rouge. Ces derniers jours, plusieurs participantes et participants au mouvement des retraites ont été visés par de violentes attaques imputées à des groupes d'extrême droite. Le piquet de grève de la plateforme Courrier de Perpignan a été attaqué par les occupants de 6 voitures, jets de pierre, gaz lacrymogène, dans la nuit du mercredi 29 mars au jeudi 30 mars. 4 militantes et militants de Solidaire identifiés par leur chasuble ont été aspergés de gaz lacrymo et menacés d'une arme à feu mardi 28 mars à Lorient. Le même jour, un cortège étudiant a été attaqué dans le quartier latin à Paris. Plusieurs d'entre elles et eux ont été blessés. Ces quelques exemples s'ajoutent à d'autres attaques en marge des cortèges des dernières semaines dans plusieurs villes. Libération a recensé une quinzaine d'attaques de ce genre, auxquelles nous pouvons ajouter l'attentat commis contre le maire de Saint-Brévin le 22 mars dernier. L'extrême droite montre une nouvelle fois son vrai visage, celui d'une brute au service de l'ordre établi et des intérêts capitalistes prêts à en découdre avec les travailleuses, travailleurs, chômeuses, chômeurs, étudiantes, étudiants et retraités mobilisés pour la défense de la sécu et plus généralement de la solidarité. Et dans chaque ville, à chaque déplacement de l'extrême droite, des camarades ne reculent pas devant la collusion fasciste, policière et judiciaire et s'organisent pour faire savoir leur opposition, leur dégoût et leur détermination. Chaque geste du plus petit au plus audacieux est une manière de nous dire collectivement, et on a besoin de l'entendre, que de Marseille à Fort-de-France, de Nancy à Aulnay-sous-Bois, on veille les uns sur les autres et on est là. Et pour répéter à nouveau et avec vigueur ce geste le 1er mai, nous invitons toutes celles et ceux qui seront en mesure de le faire à rejoindre à 10h la manifestation du Havre. La manifestation sera suivie d'un village militant et festif et à réaliser des actions locales dans vos villes contre les sociétés suivantes, société Espace Théâtre Spectacle, voilà événement gestionnaire notamment du Carré des Docks et dans plusieurs villes de France. Donc voilà pour cet appel assez spécifique mais important pour le 1er mai du côté du Havre. Et voilà pour cette première petite page. Du coup, on dit qu'on se faisait une petite pause musicale.
Oui.
Du coup, je lance tout ça. Et c'est parti. D'ailleurs, tu peux lancer. On la laissera peut-être pas en entier parce que elle est un petit peu longue. Voilà, c'est Working Class Heroes pour ce 1er mai. C'est parti. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire Lyon. Et nous allons passer, après cette pause musicale, à une petite page de lutte sociale.
Oh, je dirais même une balèze.
Une balèze, allez, vas-y, bah, balance. Hein. Balance la balèze.
Et enfin, on va y aller mollo. Donc, on va commencer par Chambéry, donc pas loin de chez nous, quoi, bien sûr. Chambéry, pour un démarrage de conflit qui date de fin mars. Et c'est les techniciens et techniciennes, je pense aussi, de la société chambérienne de distribution de chaleur, en plus court ça fait SCDC, à Bissy, donc à côté de Chambéry. Malgré la grosse pression de la direction, même pas peur dans la vapeur. SDC, c'est Engie en fait, hein, c'est une filiale, une succursale, enfin bon, bref, une branche, quelque chose comme ça, de la grosse société Engie. Alors les huissiers, je pose la question, ben ils étaient là, appelés aussi à la rescousse. La hausse des salaires était le sujet, le but de ce conflit. La direction tient sa ligne de défense avec une augmentation ridicule, en oubliant bien sûr les embauchés de fraîche date. Et au 3 avril, la grève illimitée durait, selon la CGT, avec une bonne quinzaine de grévistes. Sochaux maintenant, c'est dans le Doubs, avec en début avril aussi, Sochaux, c'est Peugeot, c'est également Peugeot, c'est PSA, c'est Stellantis, choisissez ce que vous préférez. Alors pas de grève, non, mais chômage forcé. Poliment, on dit chômage technique, hein. 5000 travailleurs concernés, 10 jours. Manque des ingrédients pour le montage des autos, les boîtes de vitesse, les semi-conducteurs par exemple. Alors clairement, pour la direction, les salariés paieront. Ils et elles toucheront 84% de leur salaire sur un arrêt de 10 jours, mais disponible dès un appel du DRH au cas où, évidemment, on retrouverait les boîtes de vitesse et les trucs, les semi-conducteurs. 84% donc du salaire, hein, je précise, 84% du salaire net. Hein. Alors une perte de 150 euros mensuels. Pour la famille Peugeot et le groupe Stellantis, qui est composé, donc je le disais, de PSA, de Fiat et de Chrysler, il n'y a pas de souci. 17 milliards d'euros de profit en 2022, c'est dans la poche des gros, des grands, des gras, les actionnaires du groupe, malgré des soucis d'approvisionnement selon la direction Peugeot. Calais, dans le Pas-de-Calais, du même nom, avec une grève chez un sous-traitant de Irish Ferris, c'est la société Scanco, salariés, employés comme agents d'embarquement. Une manifestation qui était en grève, quoi, bien sûr, vous l'avez deviné, donc une manifestation programmée aussi par une vingtaine de personnes pour la défense de leur salaire. La direction muette, lors des négociations annuelles obligatoires, déclare aussi, les grévistes, hein, déclarent un climat délétère au travail, avec des menaces, une pression constante et puis des démissions aussi. Ça a duré 4 jours et c'était à la mi-avril. Saint-Denis de la Réunion, à la mi-avril également. Il et elle sont employés dans la charcuterie industrielle Salaison de Bourbon. Il et elle sont en grève pour obtenir une augmentation des salaires à hauteur de 3,9%. Pour appuyer les revendications, il y a eu des rassemblements et des opérations escargots dans la ville pour une quarantaine d'employés qui dénigrent donc les 2,9% offerts gracieusement par la direction. Deux réunions durant les négociations annuelles n'ont rien changé, n'ont rien arrangé plutôt, selon la CFDT qui exige, elle, 5%. Des intérimaires ont été quand même embauchés pour casser la grève. C'est la réponse donc des dirigeants aux grévistes et à tous les employés de cette société. Réponse à la réponse, eh bien ça a été le départ du directeur. D'accord. Voilà, il l'a bien mérité. Salaud. Dans la Manche, à Sottevast et à Motis, c'est dans le 50 en fait, hein, c'est dans la Manche, avec une grève des salariés des maîtres laitiers du Cotentin. le 17 avril, dès 5 heures du matin, et avec leurs camarades de la société des transports Arsens, qui est en fait un transporteur, mais aussi filiale des maîtres laitiers, et à l'appel de la CFDT, 98% de participation. Alors, qu'est-ce que ça, comme on dit dans le Cotentin? Eh bien, c'est une sale blague. C'est l'annonce de la direction qui annonce donc 0 euro d'intéressement. Réaction immédiate pour une prime de partage égale à la prime Macron. Elle a été obtenue donc le 6 avril à hauteur de 400 euros par personne. Puis, après, plus rien. Silence total. Alors la cause, c'est que la société, la direction, dans un petit coin bien sombre, a décidé le rachat d'une laiterie, la laiterie Gilbert, du côté de Grenoble. Et donc la CFDT exige, après ce coup de Trafalgar, exige 1000 euros de prime et balaye le prétexte de la direction sur la supposée mauvaise santé des maîtres laitiers. Donc, ce qui avait nécessité, évidemment, c'est que cette prime de 400 euros. Il y a aussi, on y revient, c'est à La Réunion. Encore une fois, on prend l'avion et hop, hein, on file là-bas. On c'était le 18 avril, c'était la quarantaine de salariés ici de Canal+ Réunion qui était en grève, une grève reconductible, pour entamer une discussion sur les primes exceptionnelles et d'intéressement avec leurs responsables. Les salariés grévistes se sont rassemblés à la Technopole de Saint-Denis, bien décidés à rattraper le manque à gagner sur l'intéressement de 2022. On leur souhaite tout le succès possible. Beauvais, dans l'Oise, c'est une grève chez Givenchy. Givenchy, vous voyez qui c'est, hein, c'est le groupe, ouais. LVMH, évidemment, dont le capitaine d'industrie, n'est autre que le réputé Bernard Arnault, réputé pour sa fortune estimée à 194 milliards d'euros. J'en crois pas mes oreilles. Pas partageux, nanar. Hein. Du coup, les salariés se sont mobilisés pour une grève, massivement mobilisés à plusieurs moments et arrachés une augmentation de leurs revenus qui doivent flirter avec le SMIC. Hein. Toujours sur Beauvais, donc je dirais Rebeauvais, cette fois ce sont des parents d'élèves qui se sont mobilisés en rang serré début avril contre la fermeture d'une classe. 1500 signatures aussi sur une pétition pour l'école élémentaire Foex d'un quartier populaire. Bah, ça n'a pas fait tomber l'œil du maire, hein. C'était une peine perdue pour ainsi dire, puisque l'école est vétuste, a déclaré le maire, et a moins de fréquentation. Par contre, le premier magistrat donc de la commune, hein, le maire, n'a pas lambiné sur la distribution des sous communs pour la multinationale Axco Massey Ferguson, qui est fait dans le matériel agricole, et leur céder l'avenue Blaise Pascal et la requalifier en voie privée. Il n'y a pas que des malheureux. Hein. Je continue dans un petit peu.
Ouais, vas-y, vas-y, vas-y,
je vais continuer. Vas-y. Oui. Chauny, maintenant dans l'Aisne, c'est le 13 et 14 avril avec une grève au TACT. Le TACT, c'est les transports de l'agglomération Chauny-Ternier-Laferrée, où les mouvements de colère salariale sont rares selon les infos syndicales. Mais en cette mi-avril, le bouchon a été poussé un petit peu loin par la direction de Keolis. Encore eux, Keolis qui gère évidemment les transports urbains et voire plus, hein, oui, plus oui. Que urbains, quoi. Les conducteurs et mécaniciens exigent 6%. La direction mesquine propose 5,5%. Et ben ça, je peux vous dire que ça énerve. Alors, même motif et même punition à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, pour la même Keolis. Et là, il s'agit de TLP. Tarbes, Lourdes, Pyrénées, et un max de salariés du transport communautaire d'agglomération en grève le 14 avril pour une réouverture des négociations annuelles obligatoires et des conditions de travail aussi pour en discuter. C'est la direction qui a quitté la table. Alors, qui fout la merde, hein ? Et quatrième journée, donc sans transport, c'était la réponse également ici. TLP Keolis détient un record. c'est celui des salaires les plus bas en France, selon une moyenne établie dans la profession. Et puis à Cholet aussi, dans le Maine-et-Loire, il y avait la centaine de salariés. Ça commence déjà à faire un petit peu de foin quand même, une centaine de personnes, qui plus est, ont grillé l'intersyndicale pour un appel à la grève. Ça se voit rarement, mais ça se voit aussi des fois. Ce n'est plus du foin, c'est du boucan. C'est chez Michelin, en fait, avec des débrayages entre 5h et 11h pour l'équipe du matin et 13h pour l'équipe de l'après-midi. Au total, 300 personnes. Ce n'est pas du boucan, ça frise l'émeute. Production stoppée, colère installée sur la chaîne, sur les chaînes de fabrication. La direction a décidé 16 jours de fermeture, dont 5 en chômage partiel, encore une fois, à 73% du salaire net. Bénéfice Michelin, ils sont en hausse. Donc les grévistes exigent 100% de leur salaire. La direction a quand même encore négocié à 84%. Et là, ça s'est passé. Basse-Goulen, dans le 44, avec des salariés de la commune qui étaient en pétard. Enfin, pas la commune, les salariés, les ronds-points ou des ronds-points occupés. Alors la cause ici, ce sont les salaires, les congés aussi, des salaires bas, des congés supprimés selon la loi des fameuses 1707 heures. Et aussi, ils dénoncent le manque de considération des élus. Donc CQFD, colère des agents et des agentes, de la halte garderie, des espaces verts, des services administratifs et bien d'autres, sans doute, ensemble pour la défense des acquis, que l'on soit du public ou du privé. Je continue. À Marquette-lès-Lille, dans le Nord, c'est Verbaudet. Verbaudet, vous connaissez, ça fait un petit peu rire.
Tout à fait.
On connaît Verbaudet. on fait entre autres du prêt-à-porter pour enfants, pour les futures mamans, du matériel, enfin bref, de zéro à je ne sais pas quel âge. Donc à l'appel de la CGT, c'est un appel lancé qui a été lancé en mars pour une grève et des blocages du site, car la direction de l'équité commerciale, j'allais dire, c'est la raison sociale, ne répond plus après 8 jours de conflit sur le site logistique. Le blocage a pourtant été levé avec les forces de l'ordre. Une centaine, voire 80 à 100 personnes de grévistes, comme grévistes, restaient toutefois sur place, selon les infos de la CGT. Alors ici, les revendications, c'est les revalorisations de salaire. Ils réclament, ils exigent 20% de mieux, ce qui représenterait 300 euros mensuels. Autrement dit, le baudet vert bouffe du SMIC et est au SMIC. Quant à FO et à la CFTC, les deux compères, ont signé avec la direction pour 6%. La CGT dénonce un recours massif aussi, là, aux boîtes d'intérim. Alors, il y a aussi une petite note que je donnerais, c'est que Sophie Binet, donc la nouvelle secrétaire de la CGT, appelait au boycott de l'enseigne. Verbaudet aux 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un chiffre de 2018. Il faut évidemment l'augmenter. Et puis pour terminer quand même, à Étrée, dans l'Ain, c'était le 20 avril, c'est chez la société Storengy, 43e jour de grève, et ont l'intention de rejoindre le 1er mai, toujours en grève, sur le site de stockage de gaz. Le conflit a démarré en mars dernier, une centaine de personnes, le 15 donc, au portail de l'entreprise et accès sur site bloqué, distribution de gaz diminuée, lutte dans le cadre d'opposition à la réforme de la ou des retraites. Même combat, même entreprise à Chémery aussi dans le Loir-et-Cher et puis à Gournay-sur-Aronde, j'adore ces noms de villes, dans l'Oise. Voilà, alors que Étrée, en fait, aujourd'hui, je donne ça pour ceux qui aiment les précisions, ça s'appelle plus Étrée, mais Bresse-Vallon, parce qu'il y a eu une réunion, comme ça se fait beaucoup en ce moment, de différentes communes pour en faire qu'une, en fait. Voilà, faut le savoir, faut qu'on se le dise, en fait. Et puis, le Kiki qui a dit ça, bah oui, tiens, je suis revenu un petit peu sur ce petit jeu
Pourquoi pas, hein.
Que j'avais. J'ai tenu un peu le crachoir, là, je suis désolé. Hein. Mais le Kiki qui a dit ça, hein, je vais vous le dire, bah, avant on était des moutons, maintenant on est devenus des lionnes. Kiki qui a dit ça, bah, c'est, je vais vous le dire, hein, bien sûr, parce que vous n'allez pas trouver. C'est la responsable syndicale CGT de Vert-Baudet. Il y a quand même 320 salariés là-bas, hein, en relais jour et nuit à l'entrepôt, donc ils gardent les portes. Voilà.
On suivra ça sur cette lutte-là. Une toute petite page, deux petits trucs pour... une petite et une plus grosse. Je voulais la faire du coup la semaine, il y a 15 jours, mais du coup on n'avait pas fait l'émission. C'était, alors on revient un petit peu en arrière, c'était le 16 avril 2023. C'était le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Et donc il y avait un hommage sur Paris, notamment aux insurgés de ce ghetto. Je vais vous lire le petit texte du coup qui appelait à ce rassemblement. C'est toujours important de rappeler aussi ce qui s'était passé là-bas. Lorsque les nazis entrent dans le ghetto de Varsovie le 19 avril 1943, ils ne s'attendent pas à trouver 750 juifs et juives armés derrière des barricades, prêts et prêtes à les combattre. Enfermés et tassés entre des murs aveugles depuis novembre 1940, la population du ghetto a déjà chuté de 450 000 à 70 000 personnes en moins de 3 ans en raison des déportations quotidiennes vers le camp de mise à mort de Treblinka. La date de l'attaque choisie par les nazis correspondait cyniquement avec le premier jour de Pessah, Pâques juive, célébration de la liberté par le souvenir de la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Les insurgés n'ont pas de doute sur ce qui les attend, comme le montre l'écrit d'un combattant du ghetto, ouvrez les guillemets, « Nous ne voulons pas sauver notre vie, personne ne sortira vivant d'ici, nous voulons sauver la dignité humaine. » L'organisation juive de combat, initiée par les mouvements de jeunesse présents dans le ghetto, dont les figures les plus connues étaient Mordechai Anilevitch, Mira Fukrer et Marek Edelman, planifie et organise l'insurrection du ghetto. Ce combat inclut également l'installation de caches et d'abris, la fabrication des armes, des barricades, le stock des provisions et la cuisine, le soin des blessés et la communication. C'est tout le ghetto de Varsovie qui s'est soulevé et a soutenu les 750 combattantes et combattants. Malgré les conditions dramatiques de leur lutte, les milliers de personnes acculées se sont dressées et organisées contre les nazis. Ces femmes et ces hommes se sont aussi battus pour que leur mémoire nous parviennent et nous inspirent. Leur rendre hommage est également un appel au combat d'aujourd'hui face à la montée des droites extrêmes et des idées fascisantes et plus particulièrement de l'antisémitisme. Donc voilà pour ce rassemblement donc, qui avait lieu dimanche il y a 15 jours sur Paris pour fêter l'hommage aux insurgés du ghetto de Varsovie pour le 80e anniversaire. On va rester un petit peu du côté de l'extrême droite mais sur une autre thématique, celle de l'écologie. Je vais vous lire un texte de Michael Correa, donc du coup qui est un journaliste spécialisé un peu dans l'écologie, qui travaille maintenant sur Mediapart, il a travaillé dans Le Canard, etc. Et notamment, vous en avez sûrement entendu parler de Hugo Clément, donc, qui est ce journaliste qui est assez connu de la jeunesse, notamment sur la thématique écologique, antispéciste, et qui du coup a été vivement critiqué car il a participé à un débat organisé par Valeurs Actuelles. Donc ce journaliste Hugo Clément s'est défendu d'avoir participé en arguant que l'écologie doit dépasser les clivages partisans. C'est oublier que la catastrophe climatique est structurellement raciste. Donc le 13 avril dernier, Hugo Clément a débattu d'écologie avec Jordan Bardella, président du Rassemblement National. La soirée était organisée par Valeurs Actuelles, journal condamné pour provocation à la haine raciale en 2015 et pour injure publique à caractère raciste en 2021. Le journaliste écolo-cathodique s'est justifié son intervention en arguant sur les réseaux sociaux, comme sur les plateaux télévisés, que l'écologie est une cause qui doit transcender tous les partis. Il a même dit, le 18 avril au soir sur France 5, il faut faire en sorte que l'écologie donc dépasse ses clivages partisans. Si sous couvert de parler à tous et à toutes, Hugo Clément ratifie l'idée que le RN est un parti comme un autre, il oublie surtout, ou fait sciemment abstraction, que la crise climatique et ses impacts mortifères sur les humains, comme sur les écosystèmes, est structurellement raciste. Premièrement parce que le chaos climatique est actuellement aggravé par la prédation des ressources fossiles dans les pays du Sud. Le pétrole et le gaz, dont la combustion est le moteur des dérèglements climatiques, sont de plus en plus accaparés par les multinationales des pays riches, au détriment des populations du Sud et non blanches. Pour exemple, la compagnie française Total Energy est aujourd'hui le premier développeur de projets pétro-gaziers en Afrique, alors que le continent, responsable de moins de 4% des émissions mondiales, subit déjà de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. En Ouganda, son méga projet pétrolier en cours de construction construction prévoit le forage de 400 puits et un pipeline transfrontalier de 1400 km de long. Et pour ce faire, Total Energy doit déplacer, selon les ONG, plus de 100 000 personnes, et ce souvent sans réel respect des droits humains, voire sous contrainte. Même les projets de compensation carbone qui permettent aux géants industriels saboteurs du climat de perpétuer le business comme d'habitude, se déploient aux dépens des habitants et habitantes du sud global. Comme l'a révélé Mediapart, Total Energy opère son greenwashing en dépossédant de leurs terres ancestrales des centaines de paysans et paysannes en République du Congo, parfois sans leur libre consentement. Mais ce n'est pas que dans les pays du Sud qu'une logique raciste sous-tend les projets d'extractivisme fossile. Dans le Nord industriel également, les infrastructures pétro-gazières impactent en premier lieu les personnes non blanches. Aux États-Unis, les Africains-Américains, Afro-Américains, sont 1,54 fois plus exposés à la pollution due aux combustibles fossiles que l'ensemble de la population. Une étude de l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur a conclu que la majorité des raffineries américaines sont situées dans des zones où habitent des communautés non blanches et que la pollution provenant des infrastructures gazières a augmenté le risque de cancer pour 1 million de Noirs américains. Dernier exemple, la construction du Dakota Access Pipeline, lancé par l'ex-président Donald Trump. Ce gigantesque oléoduc de près de 1900 km de long, qui doit traverser 4 États, du Dakota du Nord à l'Illinois, menace directement, en cas de fuite de pétrole, l'approvisionnement en eau des nations amérindiennes Fox et Sioux avoisinant son tracé. Les personnes racisées sont donc en première ligne. Et si la crise climatique est structurellement raciste, c'est également parce que les personnes racisées sont les premières victimes du changement climatique. Depuis plus de 30 ans, 79% des décès enregistrés et 97% du nombre total de personnes touchées par les conséquences des catastrophes climatiques l'ont été dans les pays du Sud. Fin mai 2022, dans la métropole de Recife, au Brésil, 128 personnes sont mortes après des pluies diluviennes aggravées par le réchauffement planétaire. Le racisme structurel et environnemental au Brésil a conduit à ce que les premières victimes de cette catastrophe soient les habitantes et habitants noirs des favelas de cette ville classée par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, comme l'une des plus menacées au monde par le changement climatique. Dernière illustration en date d'une crise qui touche en premier lieu le sud global, les inondations dramatiques qu'a vécu l'été dernier le Pakistan, 1400 morts, un tiers du pays sous l'eau et 1,7 million d'habitations détruites. Les scientifiques ont jugé que le changement climatique aurait accru de 50% ces précipitations dramatiques. Or, le Pakistan n'a contribué qu'à 0,3% des émissions historiques mondiales, mais figure en 8e position des pays les plus menacés au monde par les phénomènes extrêmes. Dans les colonnes du Guardian, en novembre dernier, durant la COP27 de Sharm el-Sheikh, en Égypte, la jeune militante ougandaise pour le climat, Vanessa Nakata, a rappelé « L'héritage de l'extractivisme colonial et du pillage par les pays riches a laissé des pays comme le Pakistan, le Kenya et le Mozambique sans ressources suffisantes pour faire face au changement climatique extrême. » Et lors de la canicule de 2003, le département de la Seine-Saint-Denis en France, le plus pauvre de la France métropolitaine et où les personnes immigrées représentent près d'un tiers de la population, a été parmi le plus touché avec une surmortalité de 160%. Aux États-Unis, 74% des sinistrés de l'ouragan Katrina qui en 2005 a dévasté la Nouvelle-Orléans étaient afro-américains alors qu'ils ne représentaient que 37% de la population de son aire métropolitaine. Les régions à faible revenu du sud-est américain qui comptent les plus grandes populations noires du pays sont considérées comme les plus vulnérables face aux catastrophes climatiques et selon le gouvernement américain, les communautés non blanches sont exposées de manière disproportionnée aux risques sanitaires liés au climat. Dans le dernier rapport du GIEC, les scientifiques ont élaboré divers scénarios d'émissions de gaz à effet de serre pour esquisser des trajectoires de changement climatique. Et le climatologue Christophe Cassou avait alors souligné sur Mediapart, quand on prend en compte les scénarios les plus proches de la tendance actuelle, à savoir une augmentation des inégalités sociales et une résurgence des nationalismes, on s'oriente vers un réchauffement de 3 à 3,5 degrés, soit un enfer sur Terre. Le fait que l'extractivisme fossile à l'origine du chaos climatique, comme les impacts mortifères des dérèglements climatiques, touche largement et prioritairement les personnes racisées, nous démontre que se battre pour le climat est un combat intrinsèquement antiraciste. Que face à la montée des températures comme des fascismes, ce n'est pas une écologie transpartisane, mais bien une écologie du rapport de force qu'il faut instituer, une écologie qui démantèle les structures de pouvoir et les rapports de domination, notamment racistes, à l'origine du chaos climatique, sous peine de voir surgir un État policier vert, où le racisme sera labellisé neutre en carbone et où la seule politique d'adaptation au changement climatique sera la fermeture des frontières. Donc voilà pour ce texte de Michael Correa.
Très bien, merci.
Petite pause musicale
hein, alors, tu veux une petite musique
ou alors t'enchaînes comme tu le sens.
Allez, on va écouter un truc assez court. Elle n'est pas morte. Vous allez comprendre tout de suite qui n'est pas morte. Donc c'est Michel Bernard et les Ogres de Barbac. Voilà.
On l'a tué à coups de chasse-pot, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on n'a pas des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et ces 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit, dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires.
En train de bricoler.
L'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire. Et on va enchaîner avec une deuxième page de lutte sociale. C'est à vous.
Merci. Donc, je vais revenir un peu sur le mois de mars parce que, comme on n'a rien fait de ce côté-là. Alors, j'ai choisi quasiment. Je ne choisis pas d'habitude les luttes. Hein. Elles viennent comme elles viennent. Donc, mais là, franchement, pour le nom du pays, là, Pont de Buy, les Kimmerches.
D'accord. Ouais. Pourquoi pas.
Pourquoi pas. Hein.
Allez.
C'est dans le Finistère, en fait, c'est en Bretagne. Et c'était au mois de mars, l'entreprise Autolive Livebag. Autolive Livebag. Donc, c'est un équipementier auto, 200 salariés, 200 grévistes. Ce n'est pas de la petite mesure, certes. Se battre pour les salaires est un droit inaliénable. Ici aussi, on parle de miettes en ce qui concerne les augmentations des 600 employés face à une direction qui souffle le chaud, puis le froid. Sur les négociations annuelles obligatoires, conduite déloyale pour les grévistes qui souhaitent 15 euros en brut mensuel, ça fait pas lourd, mais enfin bon, c'est eux qui ont choisi. Des groupes de 50 à 150 personnes se forment devant l'entrée du site. Du moins se formaient devant l'entrée du site. À Béziers, dans l'Hérault, c'était le 2 mars avec Intermarché, sa plateforme de distribution. Un blocage la rend complètement inactive. 450 salariés, 80% sont en grève. Une intersyndicale, des propositions désarmantes, désolantes de la direction sur et pour les salaires. Aucun accord, que 5,9%, dont une partie a été versée Bercy déjà en 2022. 8% pour l'intersyndicale, c'était leur exigence pour arriver à doubler le SMIC de quelques centimes. Total, eh bien, c'était une grève illimitée. À Libercourt, dans le Pas-de-Calais, et puis aussi à Villers-Bretonneux, dans la Somme, c'est Novares, équipementier également de l'automobile, qui fournit les pièces diverses et variées à Toyota dans le Nord. La centaine de grévistes, c'était au début, donc, enfin au mois de mars, on va dire, qui ne lâche rien si la direction ne lâche rien. 150 euros exigés mensuels, 75 euros pour la direction, ça se bagarre dur. La CGT tient la barre des négociations terminées pour donc le camp d'en face. Et après deux sites en grève, ce fut trois. Il y a aussi cinq usines de production en France qui n'attendaient que le feu vert pour évidemment arrêter toute production. À Montfaucon en Velay, c'est dans la Haute-Loire, toujours au mois de mars, avec une entreprise, Linamar, qui font dans les transmissions. Alors je suppose que ça doit être un équipementier auto également. Alors souci, il a également des NAO pour EFO, la CFDT qui était pour avoir 200 euros de plus, 80% de l'effectif en arrêt de production après une quatrième entrevue qui a produit un flop. 80 euros proposés par la direction, 200 euros bruts mensuels pour les revendications ouvrières. Linamar progresse en chiffre d'affaires, donc CQFD, encore une fois, le fruit du travail doit être réparti très justement et pas par un rapiessage, je pense que c'est français ça. Je l'ai mis, c'est un rapiessage, oui. Comme il a été proposé par la direction, un raccommodage de 12 à 16 euros par-ci, de 20 à 33 euros par-là, selon les lieux d'habitation des salariés. Il s'agit là d'un dédommagement pour le carburant selon les zones bien définies. Ils nous inventeront tous, ces patrons. À Azé, dans la Mayenne, donc on va finir là-dessus, avec le 7 mars, une production fromagère, Perrault. C'est son nom. Décision importante, faire grève contre les propositions salariales de la direction jusqu'à cette date. On organisait la colère par de petits débrayages. A été décidé de taper dans le dur une soixantaine de salariés au front et sur le parking de la société pour terrain de lutte. Usine à l'arrêt, faire aboutir également les NAO, 7% contre 3% qui était proposé par les fameux radins patrons, selon la CFDT, avec un mouvement reconductible et prendre les devants sur les décisions des patrons d'augmenter la production avec un investissement de plusieurs millions du groupe Savencia, en oubliant un tant soit peu ses courants, les principaux acteurs, les principales actrices de la richesse, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses. C'est pour ça qu'on a un 1er mai, lundi.
Tout à fait. C'est tout bon pour vous ?
Oh bah oui, là maintenant, ça y est, là je suis cuit.
Eh bien alors, on y retourne pour nous. Je voulais juste vous lire là pour peut-être donner envie de lire notre journal qui s'appelle Alternative Libertaire, qui est un mensuel, donc le mensuel de l'Union Communiste Libertaire, que vous pouvez trouver à la Plume Noire pour 4 euros ou pour un peu moins si vous ne pouvez pas vous le payer. Un petit article du coup de la commission allée antifascisme qui parle de l'Italie, parce que depuis sa nomination au poste de chef du gouvernement, Giorgia Meloni s'est évertuée à présenter une image acceptable. L'Union Européenne est rassurée et même le CGIL, le principal syndicat en Italie, l'a invité à son congrès. Pourtant, sa politique est bien marquée du sceau de l'extrême droite. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, Giorgia Meloni semble être en passe de réussir son pari de rendre acceptable le fait de voir un pays dirigé par la leader d'un parti néo-fasciste. Ce n'est pas par facilité de langage que ce terme de néo-fasciste est utilisé. Si le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, se revendique officiellement de centre-droit national, et c'est ainsi qu'il est repris dans la presse en Italie et ici aussi, le parti de Meloni est bien né d'une scission de l'ancien parti Alleanza Nazionale, lui-même issu du MSI, Movimento Social Italiano, le parti néofasciste fondé en 1946 par d'anciens de la République de Salo et divers militaires prêts à maintenir la flamme du fascisme. La fameuse flamme tricolore qui sert de logo à Fratelli d'Italia et dont s'est inspiré le Front National à sa création. De même, les thèmes chers à Meloni sont ceux de la droite réactionnaire, glorification de la famille, des valeurs traditionnelles et de la religion. Et ses obsessions sont bien celles de l'extrême droite, la peur des migrants et du fameux grand remplacement. Depuis son arrivée au pouvoir, Meloni met en œuvre une politique économique libérale qui ne déplaira pas à l'Union européenne. Le 16 mars dernier, le Conseil des ministres approuvait une réforme fiscale qui promet de, entre guillemets, révolutionner le système actuel progressif pour aller vers un impôt unique pour tous, qui était l'une des promesses phares du programme de la coalition Fratelli d'Italia, Legia Nord et Forza Italia. Cette réforme est justifiée par l'éternel mantra néolibéral d'allègement de la charge d'impôts pesant sur les ménages et sur les entreprises afin de relancer l'économie. Cette réforme fiscale est fondamentale pour relancer l'économie, encourager l'investissement des entreprises et garantir une plus grande richesse aux salariés, nous dit Meloni. Ces derniers mois ont également vu se multiplier les manifestations de sympathie et plus encore envers le régime de Mussolini. Les célébrations en octobre dernier des 100 ans de la marche sur Rome ont été l'occasion pour l'extrême droite italienne et européenne, de nombreux militants français ont fait le déplacement pour l'occasion, de se réunir autour du souvenir de cet acte fondateur du fascisme. Plus banalement, les propos glorifiant le Duce et les reprises des slogans fascistes se sont multipliés. Mais plus grave encore, les bonnes vieilles recettes fascistes d'intimidation physique sont aussi de retour. Le 4 février dernier, 6 jeunes militants d'Azione Studentesca, un groupuscule d'extrême droite lié au parti de Meloni, ont agressé 4 élèves à la sortie d'un lycée de Florence. L'émotion suscitée dans la péninsule par les images de l'agression qui étaient filmées et diffusées sur les réseaux sociaux n'a suscité aucun commentaire du côté du gouvernement. Seul le ministre de l'Éducation et du Mérite, c'est quand même beau comme... membre de la Lega Nord, Legia Nord, sanctionna une proviseure pour avoir envoyé une circulaire dans laquelle elle mettait en garde contre l'indifférence face aux violences de rue. L'arrivée au pouvoir de Meloni s'est également accompagnée par un durcissement prévisible des mesures anti-migrants-migrantes et plus récemment des attaques ciblées à l'encontre des couples et familles homosexuelles, interruption de l'enregistrement à l'état civil des enfants issus de familles homoparentales et à la suite de la Pologne et de la Hongrie, rejet du certificat européen de parentalité visant à ce que les enfants puissent bénéficier dans l'ensemble de l'Union des droits attachés à la filiation. La GPA est aujourd'hui dans le viseur du gouvernement et de sa majorité. Federico Mollicone, président de la commission culture de la Chambre des députés et député Fratelli d'Italia, considérant que la GPA est un crime plus grave que la pédophilie. Devant ces faits, l'invitation de Giorgia Meloni par la CGIL, le principal syndicat italien, pour intervenir lors de son récent congrès, est difficilement compréhensible vu d'ici. Bien qu'accueillie par quelques sifflets et des couplets de Bella Ciao, la leader néofasciste a pu s'exprimer tout à fait normalement, déroulant son programme libéral face aux congressistes d'une organisation qui fut pris pour cible par des militants néofascistes de Forza Nuova il y a de cela à peine un an et demi. Alors rappelons-le, de rue ou d'assemblée, le fascisme c'est la gangrène, on l'élimine ou on en crève. Voilà pour ce petit article qui se trouve dans notre journal du mois d'avril 2023, Alternative Libertaire, que vous pouvez trouver à La Plume Noire. On va donc rappeler...
La Plume Noire est ouverte le mercredi.
Le mercredi, pardon, de 17h30 à 19h30. Et le samedi de 15h à 19h. D'ailleurs, ce samedi, on en profite. Voilà, on vous a dit les rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous au Casdal demain soir. Il y a un rendez-vous le vendredi à partir de 10h30 et je crois un départ en manif à 12h30 du côté de l'ARS pour la Journée mondiale de la santé au travail. Et bien évidemment, le 1er mai, du coup, un cortège donc rouge et noir avec la CNT, la CNTSO, le STJV et la FA. On vous indique, on nous invite à nous rejoindre dans ce cortège qui sera donc placé en arrière du cortège syndical, juste au niveau de la CNT. Mmh. Donc voilà, on vous rappelle aussi qu'il y aura une deuxième manifestation en arrivant à Bellecour qui nous permettra de nous rendre collectivement dans la bonne humeur et la joie au repas de quartier de Radio Canu, place Satonnet. On vous invite aussi voilà, à venir passer à La Plume, voilà, hein, samedi après-midi, si vous voulez préparer pourquoi pas quelques pancartes, etc., lors de notre permanence, c'est possible, on peut le faire à La Plume Noire, voilà, pour cette manif du 1er mai. Eh ben, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, et on se retrouve très vite dans la rue.
Oui, j'essaye de reprendre, de relancer ma cassette.
Ça va venir.
Si tu peux tenir juste un petit moment.
Je ne sais pas du tout.
Je sais pas.
Ah là là, la cassette ne marche plus. Il va falloir qu'on change de matériel, hein. Très cher camarade. Et ben voilà, il a cassé la cassette.
On va se quitter
comme ça avec les bandes continues. C'est pas très grave.
Voilà, ouais,
et ben allez, on va faire comme ça. Et on va réparer la cassette avant de la péter.
Ouais, mais il n'y a rien qui vient. Là. C'est... Bah oui, bah, voilà.
Ah, ça, j'espère que ce n'est pas la fin du support cassette, attention. Hein.
Comme votre serviteur, j'irais dire. Comme moi, voilà. Tout ça, ça a de l'âge. Il faut que ça... Et ça ne rajeunit pas.
Non, voilà. Bah, enfin, du coup, on vous laisse 21h avec les bandes continues et on vous dit à la semaine prochaine pour la radio et très vite dans la rue dans les jours qui viennent.
Voilà. Ciao.